Soyez les bienvenus, le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la disparition d'un des plus vieux dictateurs du continent africain, Robert Mugabe, est mort. On l'a appris ce matin, l'ancien président du Zimbabwe avait 95 ans. On y revient dans un instant. Une chaîne humaine pour protéger l'école contre la drogue. Depuis 4 mois, des mamans de Seine-Saint-Denis se rassemblent tous les matins pour dénoncer le trafic qui gangrène leur quartier. Reportage à suivre. Dans ce journal également, le gouvernement qui recourt à des chasseurs de têtes pour trouver le futur patron de la SNCF. Les urgences de Strasbourg vont-elles entrer en grève à leur tour après une agression très violente contre le personnel il y a 2 semaines. Et puis une trompette de légende pour terminer, celle de Miles Davis avec un album posthume qui sort aujourd'hui.
Et dans un autre registre, c'est une figure incontournable de la scène musicale qui sera au micro d'Inter à 7h50, le chanteur Gims avec Ali Badou.
France Inter.
On l'a donc appris, Sébastien, il y a une vingtaine de minutes, l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est mort à l'âge de 95 ans.
Robert Mugabe a passé plus de 37 ans au pouvoir, tenant le Zimbabwe d'une main de fer, avant d'être destitué il y a 2 ans par l'armée et mis en résidence surveillée. Robert Mugabe était soigné à Singapour depuis 5 mois. Son portrait avec Valérie Crova.
Robert Mugabe n'a pas toujours été un dictateur. Après des études d'économie en Afrique du Sud, il rentre en 1960 en Rhodésie du Sud, l'ancien nom du Zimbabwe, pour fonder un parti politique. Le camarade Bob est l'un des meneurs de la guerre de libération contre le régime raciste de Ian Smith. Mugabe passera 11 ans en prison. En 1980, à l'indépendance de son pays, Robert Mugabe devient naturellement Premier ministre, puis 7 ans plus tard, président. Il instaure la gratuité de l'école et met en place un système de sécurité sociale. Le Zimbabwe est alors cité en exemple. Mugabe sera même anobli par Elisabeth II. Dans les années 2000, Robert Mugabe lance un programme d'accaparement des terres des fermiers blancs. L'économie du pays ne s'en remettra pas. Mugabe s'accroche au pouvoir. Il est réélu systématiquement jusqu'en 2017, où lâché par l'armée, il démissionne. Son départ avait suscité des scènes de liesse dans un pays qu'il a largement contribué à ruiner.
Valérie Crova, toujours en Afrique, un procès très attendu aujourd'hui au Cameroun, le procès du principal opposant à Paul Biya, au pouvoir lui depuis près de 40 ans. Maurice Kamto a organisé il y a 8 mois une marche pour protester contre la victoire à la dernière présidentielle de Paul Biya, qui règne sur le Cameroun depuis 1982. Maurice Kamto est jugé pour insurrection et hostilité envers la patrie, malgré les protestations internationales. Il risque la peine de mort. Et puis le bilan provisoire de l'ouragan Dorian a encore grimpé pour atteindre 30 morts aux Bahamas. 80 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire urgente. Dorian rétrogradé en catégorie 2 et qui se rapproche encore un peu plus de la côte est des États-Unis.
On revient en France, Sébastien, 7h34, quand des mères de famille se lèvent contre les dealers.
Cela fait 4 mois que ça dure. Des parents d'élèves qui se donnent la main tous les matins devant leur école, l'école Balzac Victor Hugo à Saint-Denis. Une chaîne humaine passée pour dénoncer le trafic de drogue incessant dans le quartier. Tout a commencé en mai dernier après l'irruption d'un homme en pleine journée suite à laquelle la police a découvert 30 grammes de cannabis dans le centre de loisirs. Mathilde Dehimi s'est rendue sur place.
Une intrusion dans l'école en mai dernier et c'est l'épisode de trop pour des parents d'élèves comme Agnès, pourtant habitués aux chouf, les jeunes guetteurs.
Le groupe scolaire est situé entre 2 points de deal. On va les entendre dire à l'affût une fois que la voiture de police est passée, ils diront ça passe. Les instits s'en plaignent. Parfois, ils ont du mal à faire court parce qu'ils entendent des cris tout l'après-midi.
Depuis 4 mois, chaque matin, ils se tiennent donc la main quelques minutes autour de l'école. Inlassablement, comme Kadidiatou.
On s'immobilise. S'il le faut, une année, on continuera. On ne sera jamais fatigué.
Obstinément, comme Fabienne.
C'est la rage qui nous fait tenir. Et puis le fait qu'on est dans notre bon droit.
Leur acharnement a payé. Les parents ont été reçus cette semaine par le préfet. Patrouilles de police et enquêteurs ont été renforcés autour de l'école.
Qui sont capables de faire des enquêtes sur le terrain pour ensuite faire des arrestations, ce qui est très important. On a une réponse sécuritaire. Maintenant, on espère qu'on aura aussi aussi une réponse préventive.
Des parents qui craignent aussi de voir leurs propres enfants succomber à l'argent facile de guetteurs souvent très jeunes. Catherine, représentante FCPE.
On leur propose quoi pour ne pas qu'ils tombent là-dedans aussi? Ça se mord la queue, là on va arrêter les chouffes, mais si on ne fait pas d'autres choses pour la santé, la justice et l'école, il y a une période où ça va être peut-être un petit peu plus calme et puis ça va très vite reprendre. Donc c'est pour ça qu'on reste mobilisés.
Le préfet a prévu un premier bilan en janvier. Le petit groupe, lui, se renforce. Hier, des voisines, voyant la chaîne humaine sous leurs fenêtres, sont descendues participer. Elles qui n'ont plus d'enfants scolarisés dans cette école.
Mathilde Dehimi, reportage à retrouver en longueur sur franceinter.fr.
7h36, la crise aux urgences. Un hôpital de Strasbourg, Sébastien, pourrait entrer dans le mouvement aujourd'hui.
Un préavis de grève a été déposé au CHU de Haute-Pierre à Strasbourg. Préavis à l'initiative de Force Ouvrière. Un rassemblement est prévu ce matin à 10h devant les urgences pour dénoncer les agressions et les insultes subies récemment par plusieurs membres du personnel. Fin août, un patient s'en est pris très violemment à des infirmiers, des médecins, des aides-soignantes. Deux d'entre elles ont accepté de témoigner au micro de Justine Leclerc de France Bleu Alsace.
Le poignet encore entouré d'une attelle, Anne, infirmière aux urgences de Strasbourg, a été agressée il y a 2 semaines.
On a essuyé des coups, des insultes. Mais voilà, effectivement, ce qu'on ressent, c'est surtout de la frustration de ne pas avoir pu gérer mieux et surtout de ne pas être plus soutenu. Le problème, comme dit, c'est que toutes ces insultes et agressions, ça a été clairement banalisé. C'est notre lot quotidien, quoi.
La jeune infirmière de 28 ans a porté plainte, mais a très vite repris le travail.
C'est une famille, les urgences. Et les gens qui ne viennent pas travailler ne sont pas remplacés. Du coup, on se soutient.
Manon, infirmière aussi, vient de quitter les urgences après 5 agressions en 7 ans de service.
La dernière agression que j'ai vécue il y a un mois, j'ai dit stop, maintenant c'est fini.
Parce que...
Une jeune agressive dans un contexte d'alcoolisation a quand même mis une collègue au tapis en lui mettant un coup de pied dans le visage. Et moi, elle m'a agrippé au niveau de la main. C'est quelque chose qui est assez violent en fait de devoir utiliser de la force contre quelqu'un. Et puis c'est surtout au départ quand on est devenu soignant, on n'était pas devenu flic, on est devenu soignant, c'est pour aider.
Suite à ces 2 agressions cet été, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont déployé des vigiles 24 heures sur 24 aux urgences. Le ministère de la Santé a lui débloqué depuis le 1er juillet une prime de risque pour le personnel des urgences.
Justine Leclerc de France Bleu Alsace, 233 services d'urgence sont en grève selon le collectif Interurgence, près de la moitié des services en France. Les avions d'Aigle Azur cloués au sol, la 2e compagnie aérienne française spécialisée dans les destinations vers l'Algérie, a décidé d'annuler tous ses vols à compter de ce soir sans garantir de pouvoir rembourser ses clients. Pour la dernière journée de ce vendredi, 44 vols sont toutefois maintenus. Selon le gouvernement, les autres compagnies françaises ou étrangères sont mobilisées pour proposer des billets à tarif préférentiel aux passagers en attente d'un vol retour depuis l'Algérie. Autre casse-tête pour l'exécutif, celui de la succession de Guillaume Pepy à la tête de la SNCF. Le PDG du groupe ferroviaire, membre de la SNCF depuis plus de 20 ans, ne quittera ses fonctions qu'à la fin de l'année, mais il faut lui trouver rapidement un remplaçant. Ce serait maintenant une question de jours. Alors afin de trouver la perle rare, le gouvernement n'hésite pas, comme dans le privé, à recourir à des cabinets de chasseurs de tête. Une pratique discrète, Philippe Lefebvre, mais pas nouvelle.
Dans les années 90, le gouvernement avait déjà confié à un cabinet de chasseurs de tête le soin de recruter le futur patron de l'Agence nationale pour l'emploi. Aujourd'hui, sur 1000 cabinets de recrutement en France, seuls 30 sont régulièrement consultés pour des postes de PDG, notamment par le gouvernement ou via le conseil d'administration d'une entreprise dans laquelle l'État est majoritaire, comme ce fut le cas en 2018 pour l'embauche de Ben Smith à la tête du groupe Air France KLM réalisé via un cabinet de Chicago. Et trouver le bon candidat coûte cher, la facture du chasseur de tête étant proportionnelle au salaire du futur patron. Explication d'Éric Baudouin, c'est le directeur général de Asis, consultant spécialisé dans le secteur.
On compte entre 25 et 30 voire 35% du revenu annuel brut du candidat recruté. Le cabinet s'engage à présenter ce qu'on appelle une shortlist de candidats et après, si le candidat retenu ne fait pas affaire, de reprendre sa mission gratuitement.
Et trouver un successeur au PDG de la SNCF risque de ne pas être simple car le candidat devra avoir les nerfs solides pour gérer la réforme ferroviaire, l'ouverture du rail à la concurrence et pour faire face aux puissantes organisations syndicales, le tout pour un salaire bien plus faible que ceux proposés dans le secteur privé.
Philippe Lefebvre, et puis encore au chapitre de la vie des entreprises, cette sanction qui fait bondir les syndicats de la Redoute qui était hier débattue devant les prud'hommes à Roubaix. Un membre de la CGT de la Redoute donc a été puni pour avoir mangé une
Clémentine près de son poste de travail. Et cela en dehors des heures de pause. C'était en 2017. Il a été mis à pied pendant 24 heures, perdant ainsi 70 € de salaire. Jugement au mois de novembre prochain. C'est une première pour l'Église catholique de France. Un protocole de signalement des violences sexuelles a été signé hier entre le procureur et l'archevêque de Paris. Ce dispositif prévoit que toutes les dénonciations d'infractions sexuelles paraissant vraisemblables soient transmises au parquet de Paris sans qu'il soit nécessaire que la victime ait au préalable déposé plainte. Un dispositif qui existe déjà au sein de l'éducation nationale et des hôpitaux. Il est 7h40, Sébastien, on termine avec un son de légende, celui de la trompette de Miles Davis.
Un album inédit sort en effet aujourd'hui, 30 ans après sa mort, il s'appelle Rubber Band. Un tournant artistique pour le roi de la trompette et des sessions qui ont été retouchées par les producteurs de l'époque. Mathieu Culeron.
Près de 30 ans après la mort du monstre sacré de la trompette, Rubber Band voit le jour. Après avoir quitté sa maison de disques de toujours Columbia, Miles Davis enregistre ses sessions pour Warner. Le label à l'époque ne donnera pas suite à ses enregistrements et c'est finalement le célèbre Toutou qui paraîtra à sa place. Pour l'occasion, certaines pistes ont été rajoutées, dont des voix, celles de Lady Z et Lella Hathaway, fille du légendaire Donnie, le tout sous la houlette des producteurs de l'époque, Hall & Giles, et du neveu de Miles. Le résultat sonne très pop et très propre, très orienté funk soul. Ce disque est avant tout un document destiné aux fans, largement retravaillé. Et disons-le tout net, si vous n'étiez déjà pas fan de son album Toutou et d'une manière générale du travail de Miles Davis dans les années 80, cela ne risque pas de s'arranger avec ce nouvel album. Cependant, certains titres comme CIC, par exemple, montrent tout le génie et la maestria de Miles, qui sur ce disque joue également du clavier.
Rubber Band, album posthume de Miles Davis à sortir aujourd'hui.
Merci Sébastien Legénie. Nouveau point route, Thomas Coignac, attention, des piétons sur la 8.
Oui, c'est ce que l'on nous signale sur la Côte d'Azur, c'est au niveau de Roquebrune-Cap-Martin. Soyez donc vigilants si vous êtes dans le secteur. De toute façon, la 8 est compliquée ce matin entre Toulon et Nice avec plusieurs ralentissements. Un à la sortie de Toulon, puis un juste avant Nice au niveau de Cagnes-sur-Mer. Par ailleurs, la circulation est chargée sur l'autoroute A10 au niveau de Tours dans le sens Paris-Bordeaux. Deux incidents, une voiture en panne au nord de Tours et une autre sur une bretelle de sortie au sud de la ville.